Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce lundi 21 janvier, le mystère des bébés nés sans bras, il s'épaissit du côté de l'étang de Berre avec 3 nouveaux cas. Le drame de l'incendie de Courchevel qui a fait 2 morts et 25 blessés, la maman de l'une des jeunes victimes bouleversée accuse et dénonce l'absence de système de sécurité. Dans RTL Midi aussi, Choose France, Emmanuel Macron choisit les ors de Versailles pour séduire 150 grands patrons étrangers. Marc Vera, déchu de sa 3e étoile, le chef est rétrogradé dans le nouveau guide Michelin dont le palmarès sera dévoilé dans la après-midi. Vous l'entendrez dans ce journal à la fois triste et combatif. Il y aura un Français en quart de finale de l'Open d'Australie. Lucas Pouille s'est qualifié aux dépens du Croate Coric. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Vous êtes venue avec vos lunettes de soleil.
Ben oui, parce qu'il fait particulièrement beau sur la moitié nord du pays. Du Poitou à l'Alsace et de la Méditerranée en remontant sur les Alpes et partout ailleurs. Par contre, c'est de la grisaille qui domine, avec des averses localement orageuses en Corse, quelques flocons sur les Pyrénées, le Massif central, mais rien de bien significatif par rapport à ce qui nous attend demain, on en reparlera. Le tout sous des températures froides au nord, à l'est et au centre, de 1 à 4 degrés, pas plus, de 4 à 9 à l'ouest et de 10 à 13 près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr à propos des plats préparés. Faites-vous confiance aux étiquettes? On vous pose cette question à l'occasion du procès des lasagnes à la viande de cheval qui démarre tout à l'heure. Donc, est-ce que vous faites confiance? Bah, vous dites non à 81%. Seulement 13% de oui. On attend vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle. Les 26 personnes les plus riches de l'humanité possèdent 50% de toute la fortune du monde. Ça fait effectivement... C'est effrayant.
Oui.
C'est effrayant.
On va en parler dans le journal. D'ailleurs.
Et j'imagine évidemment que les auditeurs pourront répondre. La concentration et nous interroger, pourquoi pas. La concentration de la richesse est encore accentuée en 2018. La question du jour, vous l'avez dit, le palmarès du guide Michelin. Et puis on pourra parler, pourquoi pas, également de Louis XVI. Figurez-vous que nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de sa mort. C'était le 21 janvier, place de la Concorde, à 10h22.
RTL Midi.
Et pour commencer ce journal, un témoignage bouleversant après le drame de Courchevel hier où l'incendie d'un bâtiment dans lequel vivaient des travailleurs saisonniers a fait 2 morts et 25 blessés, dont 4 graves. Un incendie particulièrement violent dans un immeuble vétuste où la moquette et les lambris ont attisé le feu. Certaines victimes rattrapées par les flammes ont dû sauter du 3e étage. Frédéric Perruche a rencontré Isabelle. Sa fille Ambre, âgée de 24 ans, a été grièvement blessée après avoir sauté. Elle a dû être opérée pendant 3 heures hier.
Elle a essayé de sortir par le couloir, qu'elle n'a pas pu. Du coup, elle s'est mise sur sa fenêtre. Elle n'a pas eu le choix, quoi. Elle a sauté. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en train de filmer. Il n'y a personne qui est là en train d'essayer de la réceptionner. Il n'y a personne qui met quoi que ce soit sur le béton pour essayer d'amortir un peu. Elle a eu un sacré courage de sauter.
Les portes étaient fermées de sécurité pour quitter le bâtiment.
Alors elle n'a pas pu accéder au couloir parce qu'il y avait trop de fumée. Quand elle est allée sur sa fenêtre... Elle nous a dit qu'elle a vu des personnes qui étaient sur l'escalier en fait et qui ne pouvaient pas sortir parce que c'était fermé, c'était verrouillé. Donc ils n'ont pas pu sortir par là non plus en fait. Je lui ai demandé, elle n'a pas été réveillée par une alarme à incendie, il n'y en avait pas d'alarme à incendie, elle a été réveillée par les cris et par l'odeur de fumée. Et apparemment, il y en a qui ont essayé d'utiliser des extincteurs qui n'ont pas fonctionné.
Et elle va comment aujourd'hui? Quelles sont les séquelles?
Ben, les séquelles, c'est que pour l'instant, elle n'a pas ses jambes, qu'on ne sait pas si elle les aura. Que même si elle les a, elle est paralysée à vie parce qu'on lui a soudé 6 vertèbres. Elle a 24 ans, ma fille.
Le témoignage bouleversant d'Isabelle, recueilli par Frédéric Perruche. Après le Morbihan, la Loire-Atlantique, l'Ain, l'étrange phénomène des bébés nés sans bras pourrait toucher désormais les Bouches-du-Rhône. 3 petites filles sont nées avec cette malformation durant l'année 2016, dans un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de l'étang de Berre. Les familles elles-mêmes ont lancé l'alerte, Odile Pouget.
Oui, et c'est évidemment cet intervalle très court de 5 mois, de juin à novembre, entre la première et la dernière naissance, et ce périmètre géographique très restreint qui inquiète les parents de ces petites filles. Il faut toutefois être prudent. On ne peut pas dire aujourd'hui si ces 3 cas relèvent d'une situation locale anormale, puisqu'on ne sait pas combien d'enfants au total sont nés avec cette malformation en 2016, mais aussi en 2017 et en 2018 dans les Bouches-du-Rhône. On rappelle que selon les statistiques scientifiques, cette anégésie des membres supérieurs survient lors d'une naissance sur 10 000. Des médecins de l'hôpital Nord de Marseille demande donc la création d'un registre des malformations congénitales. Il y en a au total 6 en France qui ne couvrent que 20% du territoire.
Une enquête nationale a été lancée par les autorités sanitaires. On s'en souvient, c'était fin octobre. Où en est-on ?
Eh bien, cela avance, mais très lentement. On devrait en savoir plus à la mi-février, date à laquelle le rapport commandé à la fois aux médecins épidémiologistes de Santé publique France et aux experts de l'environnement de l'ANSES sera remis à la ministre de la Santé. Le fameux comité scientifique chargé d'explorer de nouvelles hypothèses susceptibles d'expliquer la survenue de ces malformations n'a toujours pas été constitué. Sa composition sera annoncée à ce moment-là. On ne peut pas se satisfaire de dire qu'on n'a pas trouvé de cause. C'est insupportable, déclarait fin octobre Agnès Buzyn, la ministre de la Santé.
Odile Pouget, alors pour aller plus loin, nous sommes avec le docteur Annie Lévy-Maudy-Conacci. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Vous êtes généticienne responsable du centre de médecine fœtale de l'hôpital Nord de Marseille. Est-ce que vous êtes surprise ?
Alors, je suis médecin généticien, mais je ne suis, c'est pas moi la responsable du CPDPL, d'accord, du centre pluridisciplinaire. Je suis responsable de l'activité de génétique prénatale au sein de ce centre pluridisciplinaire. Mmh. Et bien sûr, ces cas m'interpellent en tant que médecin, donc qui prend en charge lors des grossesses la découverte de malformations congénitales. Et il est toujours difficile, et c'est notre travail de savoir ce qui est d'ordre génétique et d'ordre autre et peut-être environnemental.
Mmh. Et puis, mais là, on est sûr que dans ces trois cas, c'est pas génétique ?
Ah ben, là, il va falloir que l'enquête se mette en place.
Oui.
Et c'est bien de ça dont il s'agit. C'est d'arriver à décortiquer avec une vision globale de santé publique des cas qui semblent en effet interpeller à la fois pour leur fréquence et le fait au niveau géographique, les temps de berre, et au niveau du temps entre 5 et 6 mois. Mais c'est également en tant qu'élu, conseillère municipale et de la métropole, que nous lançons aussi à plusieurs cet appel, puisque j'ai souhaité, en tant que médecin et en tant qu'élu, alerter. Et donc, dès le mois de décembre, j'ai réuni à Marseille, dont l'appel que nous lançons, pas uniquement des médecins, mais également des élus. Delphine Bateau a signé cet appel. L'ancien maire de Fos-sur-Mer, où il y a des cas de cancer qui ont été vus et aujourd'hui connus de tous, M. Raymondi, mais également Emmanuel Amar, mais également des juristes, le professeur Parence, qui est professeur de droit en santé environnementale à Paris 8, a signé, et le premier signataire de cet appel. Nous nous sommes réunis, nous avons travaillé pendant 4 à 5 heures le 1er décembre à Marseille, parce qu'il est essentiel aujourd'hui que l'ensemble des acteurs, la société civile, les associations étaient là, les juristes, les élus, les médecins, les scientifiques, le professeur Jeanne Perrin, biologiste de la reproduction sur Marseille, tous ces acteurs ont décidé de mêler leur effort pour demander à ce que soient mis en urgence ces registres, cartographier les cas sur le plan géographique dans un univers de spatio-temporalité est juste indispensable si on veut avoir une politique ambitieuse de santé publique, ce que souhaite, je le sais, la ministre.
Oui, on voudrait savoir à quoi attribuer ce grand mystère de ces bébés nés sans bras, savoir s'il y a un problème d'environnement ou pas. Et vous nous dites que du côté de l'étang de Berre, on développe des pathologies un peu exceptionnelles.
Bien évidemment, nous sommes, et c'est pour ça que l'appel, j'ai souhaité le faire sur Marseille, en étant plusieurs à le signer, parce que Marseille, on le sait, est une des villes les plus polluées d'Europe, mais la métropole qui est en train de se mettre en place est aussi, doit avoir et va être amené à gérer une question de santé à cause de la pollution qui est liée à un passif historique, industriel, mais également une activité en cours, notamment autour de l'étang de Berre, de Fos, mais pas uniquement. On connaît tous les boues rouges à Gardanne, on sait les problèmes de pollution dans le parc national des Calanques. Moi-même, en tant qu'élue, je me bats pour reconnaître et mettre en place une étude d'impact sanitaire sur une école à la Madrague de Montredon, Voilà, donc tout ça amène à une prise de conscience collective.
Voilà, prise de conscience collective et création d'un registre, c'est ce qui paraît urgentissime pour faire le point sur ces bébés nés sans bras de manière assez mystérieuse. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Merci, à bientôt. Une énième décision de justice sera rendue cet après-midi concernant Vincent Lambert, cet homme de 42 ans plongé depuis 10 ans dans un état végétatif. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit statuer sur la légalité d'une quatrième procédure d'arrêt des soins. Sa famille se déchire depuis des années sur son sort. Dans un instant, on mange des lasagnes à la viande de bœuf et pas au cheval.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Des lasagnes à la viande de cheval. 6 ans après le scandale, 4 personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui à Paris, dont 2 anciens dirigeants de l'entreprise Spanghero, accusés d'avoir participé à l'escroquerie et de nous avoir fait prendre du cheval pour du bœuf. Et en tant que consommateur, on s'interroge, Sophie Jousselin, un tel scandale pourrait-il encore se reproduire ?
Eh bien, malgré les mesures prises, notamment en France, l'obligation de mentionner le pays d'origine de la viande et la multiplication par 10 du montant des amendes en cas de fraude, les associations de consommateurs estiment que toutes les mesures ne sont pas prises pour éviter d'autres crises dans l'agroalimentaire. Elles dénoncent l'opacité dans la traçabilité, le silence des autorités. Il y a déjà d'ailleurs eu d'autres scandales après celui de la viande de cheval qui montrent qu'il reste des progrès à faire. Ingrid Kragl de l'association Foodwatch.
On a eu le fipronil, les œufs contaminés, la salmonelle dans les produits Lactalis, c'était quand même plus de 90 pays concernés, la listeria dans les légumes surgelés, et puis plus récemment à l'automne, 8000 tonnes d'OGM interdits quand même sont entrées dans la chaîne alimentaire par le biais de l'alimentation des animaux, et aujourd'hui on ne sait toujours pas qui sont les fabricants concernés, les marques, quels sont les produits que potentiellement on a dans nos placards, c'est assez hallucinant.
Et l'association dénonce aussi les restrictions en matière d'inspection sanitaire en France. Les contrôles entre 2012 et 2017 ont diminué de 37%.
À Sophie Jousselin, les heures de Versailles pour une opération séduction. Pour la 2e année consécutive, Emmanuel Macron reçoit à dîner 150 grands patrons du monde entier. L'an dernier, le slogan, c'était « France's back ». Cette année, l'opération « Choose France », choisissez la France, se déroule dans le contexte des Gilets jaunes et le symbole de Versailles tend un petit peu l'ambiance, Anaïs Bouissou.
Oui, la CGT a déjà appelé à manifester ce matin. Des gilets jaunes se donnent rendez-vous cet après-midi à Versailles pour dénoncer le décalage entre des demandes de pouvoir d'achat et une réception des grands groupes internationaux à Versailles. Mais à l'Élysée, on le dit et on le répète, on ne voit pas où est le problème. Le but, dit-on, c'est justement de trouver des solutions à l'emploi, à l'investissement, en donnant envie aux entreprises du monde entier de s'installer en France. Et pour cela, gilets jaunes ou pas, le chef de l'État va sortir le grand jeu. Quasiment tout le gouvernement réquisitionné pour accueillir et s'entretenir à partir de 15h avec des chefs d'entreprise européens, américains, asiatiques et africains. Au menu de la journée, des présentations de la France et un dîner en présence d'Emmanuel Macron. Alors, côté annonce, on se montre prudent à l'Élysée, car il sera difficile de faire aussi bien que l'an dernier, où 3 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans avaient été annoncés en France, avec des engagements d'entreprises telles Google, Toyota, Novartis ou encore Facebook.
Les grands patrons sont reçus en grande pompe au moment où l'ONG Oxfam remet son rapport annuel sur les inégalités dans le monde. Et on se rend compte que les 26 milliardaires les plus riches de la planète concentrent autant de richesses que 3 milliards 800 millions de personnes, soit la moitié de l'humanité. Cécile Duflo, directrice d'Oxfam France, était l'invitée d'Yves Calvi ce matin sur RTL.
Ce que nous essayons de dire avec ce rapport, c'est que tout ça n'est pas une fatalité. Ce sont des choix, des décisions politiques. Oui. Et on pourrait se dire, vous l'avez dit, qu'on choisit de favoriser les ultra-riches et que ça va ruisseler. En fait, c'est le contraire qui se passe. Et c'est ça qu'on montre. Donc ça ne fonctionne pas. Ensuite, est-ce qu'on peut décider ? On peut accepter l'idée de cette inégalité. Mais on peut aussi constater que ça mine nos sociétés.
Cécile Duflo, au micro RTL d'Yves Calvi. La lune superstar, on l'apprend à l'instant, après les Américains, après les Chinois, l'Europe s'y intéresse. Ariane Group a signé un contrat avec l'Agence spatiale européenne pour étudier la possibilité d'aller sur la Lune avant 2025, ce qui constituerait une première pour l'Europe. Jean-Claude Gaudin, droit dans ses bottes. « Je finirai mon mandat », dit ce matin le maire de Marseille lors de sa cérémonie de vœux. Mais 2 mois et demi après l'effondrement de 2 immeubles de la rue d'Aubagne, alors que 1300 personnes ne sont toujours pas relogées, eh bien, il a dû faire un geste, Étienne Baudu.
Oui, car c'est un périlleux exercice de communication auquel s'est livré le maire ce matin. Et donc avec une annonce après le couac de la semaine dernière, la gratuité des tickets de transport en commun dont bénéficiaient les évacués, eh bien, cette gratuité a été finalement rétablie ce matin.
Nous avons demandé au préfet s'il nous garantissait cela. Le préfet a dit oui. Bon, dans ce cas-là, nous avons rétabli immédiatement cela. Mais vous comprenez, quand on est déjà à 14 millions, j'essaie de faire en sorte qu'on ne dépense pas trop.
Par ailleurs, le maire accueillera cet après-midi le ministre du Logement à Marseille. Il inaugurera le premier appartement proposé à une famille évacuée dans une rue huppée du centre-ville. Des appartements loués pour moitié par la ville, moitié par l'État. Enfin, diront certains, le maire qui n'a pas écarté la solution des réquisitions dans les semaines à venir. Quant au reste, Jean-Claude Gaudin est clair, j'y suis, j'y reste.
Quel maire oserait quitter ses administrés alors que la situation requiert qu'il fédère les efforts? Je suis au travail, je suis dans l'action et j'y suis plus que jamais pour les 15 prochains mois à venir.
Mais la fin de son mandat ne risque pas d'être un long fleuve tranquille. Les appétits que suscite son siège aiguisent déjà de nombreux appétits.
Dans un instant, Marc Vera, le célèbre chef, est l'invité d'RTL Midi. Il vient de perdre sa 3e étoile au Michelin.
RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
La piste aux étoiles, celle du grand cirque gastronomique. Le guide Michelin rend son verdict cet après-midi, mais on sait déjà que 3 chefs perdent leur prestigieuse 3e étoile. Marc Herbelin à l'auberge de Lille, triplement étoilé depuis 1967, ce qui était un record. Pascal Barbeau à l'Astrance et l'homme au chapeau noir, le célébrissime Marc Vera à la Maison des Bois. Et nous sommes en ligne justement avec Marc Vera. Bonjour.
Bonjour.
Vous perdez donc votre 3e étoile que vous aviez gagnée l'an dernier pour la Maison des Bois à Manigaud.
Oui, mais vous savez que je suis toujours le premier. Ça n'a jamais existé. On a ouvert, on a eu 3 étoiles. Mmh. Et l'année d'après, on perd la 3e étoile. Donc on est toujours les premiers. C'est comme l'histoire d'Anctil et de Polydor.
Je vous sens combatif. Mais
je ne me laisserai pas faire, je vous le dis. Hein.
C'est-à-dire?
Ben, parce que je suis combatif et je trouve que c'est pas normal. On n'a jamais eu une équipe aussi forte. On a une équipe formidable. Les cuisiniers sont les mêmes. J'arrive pas à comprendre. Voilà.
Et quel discours vous leur avez tenu justement ce matin?
Oh, je n'ai tenu aucun discours. Je ne tiens aucun discours. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas de discours à tenir.
On vous sent abattu, Marc Vera, quand même?
Non, je ne suis pas abattu. Mais non, vous savez que je suis un résistant. Vous savez bien.
Donc vous repartez à la conquête aujourd'hui?
Bien sûr, madame. Je suis parti à la conquête plusieurs fois dans ma vie. Vous savez, j'ai eu un accident, j'ai été paralysé. Je suis reparti à la conquête. Mon établissement a pris feu à Annecy. Après, je remonte l'établissement ici, il a pris feu à nouveau. Je suis parti à la conquête.
C'est ce qu'on va retenir, mais on entend quand même votre tristesse.
Ben, la tristesse, bien sûr. Attendez, quand vous perdez une étoile, c'est triste. Je trouve que c'est complètement injuste. Il y a un truc qui ne va pas. Oui.
Donc vous vous interrogez à haute voix sur les méthodes du Michelin, voire la légitimité du Michelin aujourd'hui?
En tous les cas, ça a changé de direction. Tout a changé. Il y a des nouveaux inspecteurs. C'est la vie, ça. Hein. Moi, je n'ai rien contre le Michelin. Simplement, il y a un problème de fond, là. Moi, je veux simplement des justificatifs. Je veux simplement savoir pourquoi. Et ça, le Michelin ne les donne jamais.
C'est ça. En fait, après, ils ne vous appellent pas pour vous dire pourquoi vous avez perdu votre étoile.
Bien sûr, c'est ça. Ils vous disent simplement que vous l'avez perdu, puis voilà. Ouais. Et ça, je trouve que c'est anormal. Mmh. C'est anormal. Et moi, ceci étant, je suis un pro-Michelin. Hein.
Donc vous continuerez à jouer le jeu?
Absolument. Je suis un pro-Michelin. Je continue à me battre. Je suis un guerrier, madame.
Merci Marc Vera, combatif. Merci d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Il y aura un Français en quart de finale de l'Open d'Australie. Lucas Pouille s'est qualifié pour la première fois de sa carrière à Melbourne en battant le Croate Coric en 4-7, 6-7, 6-4, 7-5, 7-6. Ce sera son premier quart en Grand Chelem depuis 2 ans. Il ne boude pas son plaisir.
J'ai dominé jusqu'à la fin. Je m'attendais à un match très compliqué. Il est solide, il sert bien. Donc j'ai réussi à être plus patient que lui à certains moments, à faire les choses nécessaires, à appliquer le plan tactique qu'on avait mis en place hier. Ouais, c'est très satisfaisant sur le plan du niveau de jeu, sur le plan de l'attitude, l'état d'esprit. Je pense que j'ai été très bon aujourd'hui à ce niveau-là, sur tous ces points-là. Donc je suis vraiment très content d'être en quart.
Voilà, Lucas Pouille qui est entraîné depuis quelques mois par Amélie Mauresmo. Au prochain tour, il se retrouvera face au Canadien Raonic. La disparition de François Perrault. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son visage, oui. Il était l'un des grands second rôles du cinéma français. Il vient de décéder à l'âge de 94 ans. Il avait tourné avec Chabrol, Blier, Lelouch ou encore Bertrand Tavernier, notamment dans La vie et rien d'autre.
Ce que je cherche, madame, c'est un soldat français dont vous soyez sûr, n'est-ce pas? Absolument sûr et anonyme.
Celui d'à côté du puits. Une grenade lui a éclaté dans la main, ce malheureux. Il s'appelait Mounier, il était du Mans.
Anonyme, madame. Anonyme, un soldat sans nom, sans identité, un soldat inconnu.
Inconnu?
Oui.
On les a tous un peu connus.
Et madame, nos relevés signalent 3 corps non identifiés. Ils sont bien quelque part.
Attendez.
Voilà, La vie et rien d'autre qui racontait donc, comme vous l'avez compris, le choix du soldat pour la tombe du soldat inconnu. Son interprétation avait valu à François Perrault une nomination au César du meilleur second rôle en 1990. On retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques minutes. Alors Pascal.
Je suis content que vous ayez parlé de François Perrault, parce qu'effectivement c'est une figure très populaire, ah oui. Tout le monde le connaît, c'est un merveilleux comédien à l'ancienne.
Il avait tourné dans des séries télé aussi, Château Vallon.
Exactement. Je trouve que Emmanuel Macron a le sens de l'humour ou du timing, parce que recevoir aujourd'hui à Versailles les patrons. Ben c'est vrai que ça ferait réagir. Pourquoi Versailles? Tu dis, il y a sûrement d'autres endroits en France, précisément Versailles, le symbole. En plus, on est le 21 janvier, c'est la date anniversaire de la mort de Louis XVI, donc vous pourrez réagir là-dessus et sur les autres sujets, bien évidemment. Le sujet pour moi vraiment qui m'a énormément étonné ce matin, c'est les 26 personnes les plus riches qui détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. Je trouve que c'est effrayant. Cette information, elle est effrayante en soi et elle m'a vraiment surpris. J'imagine qu'on pourra en parler ensemble, comme la question du jour et puis toutes les interrogations. À tout de suite.
À tout à l'heure. Une démonstration par l'absurde. À Montréal, la fête des neiges hier a dû être annulée à cause d'une tempête de neige. L'idée, c'est de faire découvrir ou de célébrer les joies de l'hiver. Mais alors là, trop, c'est trop. D'autant qu'il faisait moins 15 avec un bon ressenti de moins 29 à cause du blizzard. Peggy Broche, ici, évidemment, c'est juste un petit coup de froid. Oui. Mais la neige arrive demain jusqu'en plaine. Alors soyons précis, justement, pour demain. Quelles sont les zones qui vont être concernées et à partir de quelle heure?
Alors, c'est un épisode neigeux qui va concerner les régions du nord et de l'est et qui va s'étendre sur 2 jours, donc mardi et mercredi. Les premiers flocons vont arriver vers le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, dans la nuit, de 4h à vers 4-5h du matin. Mm-hmm. Ils vont progresser vers le sud pour toucher l'Île-de-France vers 6-7h. Tout ça, évidemment, ce sont des horaires qu'on vous donne approximatifs.
Oui,
parce
mais
que
on se prépare pour demain matin.
On se prépare.
Bien que ça, la matinale va être compliquée.
Exactement. Ensuite, le centre-Val de Loire va être touché, le Limousin et les Ardennes en fin de matinée. La perturbation va continuer de progresser vers l'est et le sud au fil des heures et va concerner l'Auvergne, une partie du Grand Est dans l'après-midi, mm-hmm. puis les régions Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté. Dans le sud-ouest, ce sera plus doux, donc pluvieux. On n'attend pas de neige, sauf sur les Pyrénées, où là, ça va commencer à tomber doucement au milieu de matinée. Mais on attend en montagne de 20 à 40 cm au-dessus de 700 mètres. Alors ailleurs, de 1 à 5 cm attendus demain sur la Normandie, les Hauts-de-France, à l'ouest de la région parisienne, de 5 à 10 cm à l'est de la région parisienne, donc essentiellement sur la Seine-et-Marne, également sur les régions centre en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté et Champagne-Ardenne. Et puis mercredi, deuxième épisode neigeux qui apportera une nouvelle couche de neige.
Cette neige, elle va tenir puisque le sol est froid.
Parce qu'il fait froid, exactement Christelle. Deuxième couche de neige, alors sur les Pyrénées en montagne, on pourrait avoir mercredi jusqu'à 80 cm de neige localement. Et pour le reste de la Belgique, à la Normandie jusqu'au Massif central, de 1 à 3 cm de plus. Et notamment sur les régions du centre-est, la Lorraine, l'Alsace, la Champagne, l'Est parisien. Vous parliez des températures. Mmh. Demain matin, on attend de 0 à moins 6 degrés à l'est. Hein, donc ça va piquer. Jusqu'à 4 degrés à l'ouest pour les matinales. L'après-midi, de 2 à Nancy, à 9 à La Rochelle, jusqu'à 12 à Perpignan.
Nous voilà prévenus. Merci Peggy.
RTL.
Il est 13h01.
Le tout info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Bénédicte Tassin.
Bonjour. Sa fille restera paralysée à vie. La colère et l'émotion d'Isabelle après la tragédie de Courchevel où l'incendie d'un bâtiment de saisonnier a fait 2 morts, 25 blessés, dont 4 grièvement. Hier matin, Ambre a dû sauter du 3e étage. Sa mère dénonce un manque d'équipement de sécurité dans l'immeuble.
Je lui ai demandé, elle n'a pas été réveillée par une alarme à incendie. Il n'y en avait pas d'alarme à incendie. Elle a été réveillée par les cris et par l'odeur de fumée. Et apparemment, il y en a qui ont essayé d'utiliser des extincteurs qui n'ont pas fonctionné.
Et elle va comment aujourd'hui? Quelles sont les séquelles?
Bah, les séquelles, c'est que pour l'instant, elle n'a pas ses jambes, qu'on ne sait pas si elle les aura, que même si elle les a, elle est paralysée à vie parce qu'on lui a soudé 6 vertèbres. Elle a 24 ans, ma fille.
Isabelle au micro de Frédéric Perruche pour RTL. Un manifestant gravement blessé à l'œil pendant le défilé des Gilets jaunes de Rennes samedi dernier. Selon ses proches, il a été touché par un tir de flashball alors qu'il constituait un cordon de sécurité autour d'un blessé. Pour la préfecture, les circonstances de l'événement sont loin d'être déterminées. Aucune plainte pour l'instant. 6 policiers et 2 gendarmes ont également été blessés pendant cette manifestation. 150 patrons de multinationales sur leur 31 ce soir au château de Versailles pour un dîner organisé par Emmanuel Macron. Objectif, les pousser à investir en France et rassurer les milieux d'affaires sur ses projets de réforme malgré la crise des gilets jaunes. De plus en plus de touristes internationaux dans le monde, plus 6% en 2018. 1,4 milliard de personnes ont voyagé à travers le monde l'année dernière. Deuxième session des évaluations pour les CP cette semaine. La première salve de tests a eu lieu à la rentrée scolaire. À venir donc 4 séquences d'exercices de 30 minutes maximum. Inutile, selon Françoise Popineau à la tête du SNUIPP, le syndicat appelle les profs à ne pas faire passer ces évaluations.
Ces évaluations qui sont posées au niveau ministériel n'apportent pas un plus ni pour les enseignants ni pour les élèves. Donc, c'est pas utile de les faire. Alors, soit les enseignants choisiront de ne pas les faire passer, soit ils choisiront de ne pas faire remonter. Ça, c'est les décisions des conseils des maîtres en fonction des écoles. La première salve d'évaluation de septembre, les enseignants nous avaient fait remonter que ça ne les avait pas aidés du tout dans la compréhension de leurs élèves. Il y a besoin d'observer le système éducatif à partir d'échantillons, hein, mais il n'y a pas besoin de regarder ce qui se passe dans toutes les classes de la même façon. Il n'y a pas de surenchère de l'évaluation à avoir.
Françoise Popineau, contactée par Marie Guerrier pour RTL. Des Européens sur la Lune avant 2025. Ariane Group et l'Agence spatiale européenne étudient cette possibilité. C'est ce qu'elles annoncent aujourd'hui, une première pour l'Europe. La Bourse de Paris avec Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bonjour Sylvie.
Bonjour Bénédicte.
Et c'est le calme plat à la Bourse de Paris aujourd'hui.
Et oui, et ça s'explique très bien, hein, ce grand calme. Parce que Wall Street sera fermé aujourd'hui pour le Martin Luther King Day. Donc le CAC est à moins 0,1%, c'est vous dire 4871. Alors on a eu aussi une petite mauvaise nouvelle sur la Chine. C'est ça qui retient également les investisseurs. Le PIB de la deuxième économie mondiale a nettement ralenti au dernier trimestre. Et la croissance sur l'ensemble de 2018 est à 6,6%. Un taux le plus faible depuis 1990. Les investisseurs restent également sur leur garde alors que Theresa May doit présenter son plan B à la Chambre des communes. On évoque un amendement au texte écartant un Brexit sans accord. Du côté des valeurs, Air France KLM gagne 5% après un relèvement de recommandations. À l'inverse, TF1 abandonne 2,5% car City conseille de vendre la valeur.
Merci Sylvie. Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Dans un instant, à vos téléphones, Pascal Praud et les standardistes des auditeurs ont la parole. Vous attendent au 3210.